Chapitre 15. On pend la crémaillère. Bien des jours se succédèrent de la même manière, si ce n'est qu'on recevait et qu'on recevait de nombreuses visites. Madame Skewton tenait dans ses appartements de petits levées dont le major Bagstock n'était pas le courtisan le moins assidu. Florence ne rencontra plus une seconde fois le regard de son père, quoiqu'elle le vît tous les jours. Elle ne parlait pas non plus beaucoup à sa nouvelle mère, qui était impérieuse et froide pour tout le monde dans la maison, excepté pour elle. Florence ne pouvait s'empêcher d'en faire la remarque. Bien qu'Edith l'envoyât toujours chercher quand elle revenait de faire ses visites, ou qu'elle allât elle-même la rejoindre. Bien qu'elle ne manquât jamais d'aller la trouver le soir dans sa chambre avant de se coucher, à quelque heure que ce fût, et qu'elle ne laissa jamais échapper l'occasion de se trouver avec elle, cependant, même pendant qu'elle lui tenait compagnie, elle demeurait longtemps silencieuse et pensive. Florence, qui avait tant espéré de ce mariage, ne pouvait s'empêcher quelquefois de comparer la brillante maison d'aujourd'hui à la demeure d'autrefois, si triste et si solitaire. Elle se demandait avec étonnement quand elle pourrait enfin jouir, sous une forme quelconque, de ce qu'on appelle un vrai foyer. Car, au fond de son cœur, un secret pressentiment lui disait que le foyer domestique n'était pas là, quoique partout régnât l'abondance et la richesse. Florence passa bien des heures, le jour et la nuit, à réfléchir tout en larmes à ses espérances évanouies. Car elle se rappelait que sa nouvelle mère lui avait énergiquement déclaré qu'elle était moins que personne en état de lui apprendre le moyen de se faire aimer de son père. Bientôt Florence commença à croire, ou ce qui serait plus vrai, s'efforça de croire, que c'était par compassion pour son pauvre cœur que sa mère lui avait ainsi répondu, et lui avait interdit à l'avenir un pareil sujet de conversation, sachant mieux que personne qu'on ne pouvait espérer de vaincre ou de changer la froideur de son père à son égard. Désintéressée en cela, comme dans toutes les actions et dans toutes les pensées de sa vie, Florence se résigna à cette nouvelle blessure plutôt que d'encourager les soupçons les plus légers qui pourraient être défavorables à son père. Elle trouvait encore moyen de se dévouer pour lui, même dans le trouble de ses pensées. Quant au foyer domestique, elle espérait qu'il y trouverait plus d'agrément quand les premiers moments de dérangement et de transition seraient passés. Mais elle ne songeait guère à elle-même et se plaignait moins encore. Si le foyer domestique manquait à l'intérieur, il fut résolu qu'au moins Madame Tombay en aurait un aux yeux du monde, et cela sans délai. Pour célébrer le récent mariage et pour se créer des relations, M. Tombay et Madame Skewton organisèrent quelques réunions. Il fut convenu que Madame Tombay resterait chez elle un soir de chaque semaine et que M. et Madame Tombay auraient l'honneur de recevoir ce jour-là à dîner des gens de sociétés différentes, assez mal assortis d'ailleurs. M. Tombay, en conséquence, dressa une liste des plus riches négociants de la cité qui furent invités par lui à cette fête. Madame Skewton, agissant au nom de sa chère fille, qui traitait avec une suprême indifférence un pareil sujet, donna aussi sa liste, comprenant une société tout opposée. Dans cette liste se trouvait compris le cousin Phoenix, qui n'était pas encore retourné à Bade, au grand détriment de ses intérêts personnels. Un assortiment de muscadins de toutes conditions et de tout âge, qui, à diverses reprises, avait papillonné autour de la lumière de sa charmante fille ou de Madame Skewton elle-même, mais heureusement sans s'y être brûlé les ailes. Florence, sur l'ordre d'Edith, fut inscrite pour le dîner comme membre de la famille, bien que Madame Skewton eût eu l'idée, un moment, de l'éliminer. Florence, avec un cœur sensible, qui s'étonnait de cette situation, mais aussi avec un tact exquis pour deviner tout ce qui pouvait blesser son père, prit en silence sa part modeste de la fête. La fête commença par l'apparition de M. Tombay dans le salon. Il avait une cravate d'une hauteur et d'une roideur extraordinaires et se promena dans la pièce sans s'arrêter jusqu'au moment du dîner. À l'heure ponctuelle arriva un directeur de la Compagnie des Indes, jouissant d'une immense fortune. Il portait un gilet qu'on eût dit taillé dans une bonne planche de sapin par un brave charpentier, quoiqu'en réalité il fût sorti de la main d'un tailleur et fait tout bonnement de Nankin. Quand il arriva, il fut reçu par M. Tombay, qui était seul dans le salon. Second acte de la fête. M. Tombay envoie ses compliments à Mme Tombay en l'avertissant de l'heure exacte à la pendule. Ensuite, le directeur de la Compagnie des Indes, laissant tomber la conversation, et M. Tombay n'étant pas homme à la relever, ils regardèrent le feu en attendant qu'on vînt les tirer d'embarras. Ce fut Madame Stewton qui arriva à leur secours, et le directeur, débutant par un pas de clerc, la prit pour Madame Dorbet et lui fit en cette qualité les compliments les plus flatteurs. Ensuite, on vit entrer un directeur de banque, réputé assez riche, pour avoir le moyen d'acheter tout, même le genre humain, s'il lui prenait la fantaisie de le faire coter à la bourse, ce qui ne l'empêchait pas d'être l'homme le plus modeste en parole. Il poussait même la modestie jusqu'à la vanité. Il parla de sa petite maison à Kingston sur la Tamise, où il pouvait offrir à Dorbet un lit et une côtelette, s'il voulait bien venir le voir. Quant aux dames, lorsqu'on vit comme moi dans la retraite, il serait présomptueux de leur faire une invitation. Mais si Madame Skewton et sa fille, Madame Dorbet, passaient jamais par là, elle lui ferait un grand honneur en daignant jeter un coup d'œil sur ces quelques petits bosquets qu'il avait là, sur quelques humbles plates-bandes, sur une petite serre à ananas, et sur deux ou trois petites bagatelles du même genre. Pour jouer son rôle jusqu'au bout, il se mettait fort simplement. Il portait un énorme mouchoir de batiste en cravate, de gros souliers, un habit qui lui était trop large, un pantalon trop étroit. Madame Stewton ayant parlé de l'opéra, il dit qu'il y allait très rarement, qu'il ne pouvait pas se permettre d'y aller plus souvent. Il semblait prendre un plaisir et un amusement extrême à se faire ainsi tout petit pour se faire mieux valoir, et à chaque trait de modestie du même genre, il rayonnait ensuite sur son auditoire, les mains dans ses goussets, les yeux tout pétillants de satisfaction. Enfin, Madame Dorbet entra, belle et fière. Son regard dédaigneux semblait défier tout le monde, comme si la couronne de mariée, posée sur son front, était une guirlande de pointes d'acier enfoncée dans sa tête pour la faire plier, mais sans succès. Elle aurait mieux aimé mourir plutôt que de céder. Elle était accompagnée de Florence. Quand elles entrèrent ensemble, le visage de M. Dorbet s'assombrit comme le soir du retour. Mais ni l'une ni l'autre ne s'en aperçut. Florence n'osait lever les yeux de son côté, et l'indifférence d'Edith était trop grande pour qu'elle s'occupât de lui. Les invités arrivèrent bientôt en foule. Des directeurs, des chefs de compagnie, de vieilles dames qui portaient de vrais paquets sur la tête en guise de coiffure, toutes amies de Madame Stewton, au teint fleuri comme elle, et comme elle, chargeant de colliers d'un grand prix leur cou, qui n'en avaient plus pour personne. Puis le cousin Phoenix et le major Bagstock. Parmi les dames, il y avait une jeunesse de 65 ans, si légèrement vêtue qu'elle devait avoir bien froid au dos et aux épaules. Elle parlait en minotant, ne pouvait lever les yeux sans rougir, et ses manières avaient ce charme indéfinissable qui s'attache à l'étourderie du jeune âge. Comme la plupart des invités de M. Dorbet étaient taciturnes, et que la plupart des invités de Mme Dorbet étaient fort bavards, il n'y avait guère entre eux de sympathie. La liste de Mme Dorbet, comme par un effet magnétique, forma une ligue contre la liste de M. Dorbet. Les invités de M. Dorbet, errant de chambre en chambre d'un air désespéré, ou cherchant un refuge dans les coins, s'embarrassaient dans les jambes de ceux qui entraient, se barricadaient derrière les sofas, recevaient des coups de porte sur la tête et subissaient enfin toutes sortes de martyrs. Quand le dîner fut annoncé, M. Dorbet offrit son bras à une vieille dame qui ressemblait à une pelote de velours cramoisie, toute bourrée de billets de banque. On aurait pu la prendre pour la vieille dame de Threadneedle Street, si connue dans le monde pour sa richesse et son humeur revêche. Le cousin Phoenix donna le bras à Mme Dorbet, le major Bagstock à Mme Stewton. La jeunesse aux épaules découvertes donna le bras au directeur de la Compagnie des Indes, sur lequel elle produisit l'effet d'un éteignoir. Les autres dames restaient pour compte dans le salon, délaissées par les autres messieurs, jusqu'à ce qu'enfin les plus téméraires, prenant leur parti en braves, se présentèrent pour les conduire à la salle à manger, dont ces héros intrépides, ornés de leurs captives, escaladèrent les portes, laissant derrière eux sept messieurs timides se morfondre dans le vestibule. Quand toutes les autres eurent pris leur place, un des messieurs timides apparut tout souriant et confus, sans pouvoir trouver la sienne. Il fit deux fois le tour de la table, escorté par le sommelier, et parvint à la découvrir à la gauche de Madame Dorbet. Après quoi le monsieur timide ne releva plus la tête de tout le dîner. À ce moment, la vaste salle à manger, avec tous les invités assis autour de cette table brillante, occupée à remuer les cuillères, les couteaux, les fourchettes et les assiettes, tout cela du plus vif éclat, avait l'air d'une Californie d'or et d'argent où l'on n'a qu'à se baisser et à en prendre. M. Dorbet, censé le roi de la Californie, jouait son rôle à merveille. et le surtout de métal précieux, froid comme la glace, qui le séparait de Madame Dombey, et où des cupidons transis offraient à chacun d'eux des fleurs sans parfum, complétait l'illusion par une allégorie. Le cousin Phoenix était plein de vigueur et paraissait étonnamment jeune, mais il était quelquefois distrait dans sa bonne humeur, car sa mémoire, de temps en temps, le trompait comme ses jambes, et, dans cette occasion, il fit frissonner toute la société. Voici comment. La jeune douairière au dos décolleté, qui faisait au cousin Phoenix mille agaceries pleines de tendresse, avait manœuvré de manière à se faire conduire près de lui par le directeur de la Compagnie des Indes. En retour de cette complaisance, elle planta là le directeur qui, se trouvant de l'autre côté, à l'ombre d'une triste toque de velours noir, plantée sur la tête d'une femme osseuse et muette, qui jouait de l'éventail, s'abandonna à la mélancolie et se mit à songer à part soi. Le cousin Phoenix et la jeune dame étaient d'une gaieté folle, et la jeune dame riait si fort de ce que lui contait le cousin Phoenix que le major Bagstock demanda de la part de Madame Skewton, sa vis-à-vis, si l'histoire ne pouvait pas tomber dans le domaine public. « Oh, sur ma vie, dit le cousin Phoenix, ce n'est rien. Cela ne vaut pas la peine d'être répété. » En réalité, c'est tout bonnement un épisode de la vie de Jack Adams. Je suis sûr que mon ami Dombey, car l'attention générale s'était concentrée sur le cousin Phoenix, se rappelle Jack Adams. Jack Adams et non Joe. Joe était son frère. Jack, le petit Jack, comme on l'appelait, qui louchait et qui avait un peu d'embarras dans la langue, je ne sais plus quel bourg il représentait à la Chambre des communes. Nous avions l'habitude de l'appeler, du temps que j'étais au Parlement, Adams Bassinoir, parce qu'il en tenait lieu à un jeune mineur du pays, auquel il gardait sa place à la Chambre pour la lui repasser toute chaude à sa majorité. Mon ami Dombey a peut-être connu notre homme. Monsieur Dombey, qui ne le connaissait pas plus que Guy Fawkes, fit un signe de tête négatif. Mais un des sept messieurs timides se posa tout de suite en disant qu'il l'avait connu et que même il portait toujours des bottes à la hussarde. « C'est bien cela, » dit le cousin Phoenix, qui se pencha pour voir le monsieur timide et lui adresser un sourire d'encouragement du bout de la table. Celui-là, c'était Jack. Son frère Joe portait « des bottes à revers, » dit le monsieur timide, qui montait à chaque parole dans l'estime publique. « Ma foi, il faut, » dit le cousin Phoenix, « que vous ayez été leur ami intime. » « Je les connaissais tous les deux, » dit le monsieur timide. Sur quoi M. Dombey lui fit l'honneur de trinquer avec lui. « Il était diablement bon enfant, ce Jack, » dit le cousin Phoenix, en se penchant encore pour sourire. « Excellent, » répondit le monsieur timide, « que le succès enhardissait. C'était un des meilleurs enfants que j'ai jamais vus. »« Vous connaissez sans doute l'histoire, » dit le cousin Phoenix. « Peut-être la connais-je, » répondit le monsieur timide, devenu audacieux. « Je vais le voir quand je l'aurai entendu raconter à votre seigneurie. » Et, se disant, il se renversa sur sa chaise en souriant au plafond, comme s'il la savait par cœur et qu'il en eût d'avance la colique. « À dire vrai, ce n'est pas une histoire, » dit le cousin Phoenix, en souriant à toute la table et secouant la tête d'un air des plus gracieux. « Cela ne mérite même pas un mot de préface. C'est un simple trait qui peut servir à monter l'esprit de Jack. » Le fait est que Jack fut invité à un mariage, je crois, dans le Berkshire. C'était dans le Shropshire, dit le présomptueux monsieur timide, qui pensa qu'on en appelait à ses souvenirs. C'est possible, dit le cousin Phoenix. Berkshire, Shropshire, je n'y tiens pas. C'était toujours un shire. Donc, mon ami, ayant été invité à ce mariage, dans quelque shire, et le cousin Phoenix rit bien fort de sa plaisanterie, il se mit en route, tout comme le premier d'entre nous, qui a eu l'honneur d'être invité au mariage de ma belle et charmante cousine avec mon ami Dombey. Il ne se le fit pas répéter deux fois. Il était si diablement heureux d'assister à cette cérémonie intéressante. Voilà donc Jack parti maintenant. Je vous dirai que ce mariage était celui d'une jeune fille d'une beauté remarquable, avec un homme dont elle ne se souciait guère, mais qu'elle acceptait à cause de sa fortune qui était immense. Quand Jack revint à Londres après le mariage, un de ses amis, le rencontrant dans la salle des conférences de la Chambre des communes, lui dit « Eh bien, Jack, comment va le couple mal assorti ?»« Le couple mal assorti, » dit Jack. « Mais point du tout, c'est une affaire qui s'est passée dans les règles. Elle, d'abord, elle a été bel et bien achetée, et lui, je peux vous répondre qu'il l'a payée bel et bien. » À ce point culminant de son récit intéressant, le cousin Phoenix s'apprêtait à jouir de tout le succès de son esprit quand le frisson électrique qui avait couru tout autour de la table, le frappa à son tour et l'arrêta tout court. À partir de ce moment, on ne vit plus sur aucun visage s'épanouir le moindre sourire, quel que fût le sujet de la conversation. Il se fit un profond silence, et le malheureux monsieur timide, qui était aussi innocent de cette histoire que l'enfant qui vient de naître, eut la douleur de lire dans tous les yeux qu'on le regardait comme responsable de cette maladresse. La figure de monsieur Lombay n'était pas de nature à changer pour si peu. Il avait pris son air de roideur imposante pour la fête, et ne témoigna aucune émotion. Il se contenta de dire d'un air solennel au milieu du silence « C'est charmant !» Edith lança un regard rapide du côté de Florence, mais elle conserva d'ailleurs un extérieur froid et indifférent. Au milieu des nombreux services de mets recherchés, de vins fins, et surtout d'une vaisselle d'or et d'argent qui ne finissait pas, au milieu de tout ce que la terre, l'air, le feu et l'eau pouvaient fournir, au milieu des corbeilles remplies de fruits qui montaient en pyramide et de la glace, peu nécessaire dans les repas de M. Dombay, déjà bien assez froid, le dîner se passa tranquillement. Pendant le dernier service, le marteau de la porte jouait sans cesse, annonçant l'arrivée d'invités qui, pour tout régal, n'avaient que le fumet des plats. Quand Mme Dombay se leva, il fallait voir son mari, le cou roide, la tête droite, tenir la porte ouverte pour laisser sortir les dames. Et surtout, il fallait voir comme elle passa devant lui, sans y faire la moindre attention, sa fille à son bras. M. Dombay, après le départ des dames, reprit son air grave derrière les carafes, toujours retranché dans sa dignité. Le directeur des Grandes Indes faisait une triste figure à son bout de table isolé. Le major avait l'air martial pour raconter les histoires du duc d'York au si paisible messieurs Timide, car le septième était un homme perdu à tout jamais. Le directeur de banque avait un air plein d'humilité et dessinait avec quelques cuillères à dessert le plan de sa petite serre à ananas pour le plaisir de quelques amateurs. Le cousin Phoenix avait l'air tout pensif en rabattant ses longues manchettes et en ajustant, sans faire semblant de rien, sa perruque. Mais tous ses airs changèrent bientôt car on quitta la chambre pour aller prendre le café. Il y avait foule dans les salons du premier et à chaque minute il arrivait de nouveaux invités. Mais la liste de M. Dombay continuait, d'instinct, à ne pouvoir s'amalgamer avec la liste de Mme Dombay. Chacun se rangeait sous son drapeau. La seule exception à cette règle, peut-être, était M. Carker qui souriait à toute la société. Il se tenait dans le cercle formé autour de Mme Dombay, lançant des regards vers Edith, vers son chef, vers Cléopâtre et le major, vers Florence, vers tout ce qui l'entourait, paraissant fort à l'aise avec les deux parties dans sa neutralité. Florence avait peur de lui et sa présence dans le salon lui faisait l'effet d'un cauchemar. Elle ne pouvait échapper à ce sentiment de terreur, car malgré elle, ses yeux se tournaient vers lui de temps en temps, fascinés par le mépris et le dégoût qu'il lui inspirait. Et cependant, elle avait bien autre chose à penser. Tandis qu'elle était assise dans un coin, sans être vue ni admirée de personne, mais toujours conservant le calme et la douceur de son âme, elle songeait au peu de part que son père prenait à la fête. Elle voyait avec peine combien il semblait mal à l'aise, comme on s'occupait peu de lui, tandis qu'il restait adossé à une porte, attendant les invités qu'il désirait honorer d'une attention particulière en les présentant à sa femme. Avec quelle froideur Edith les recevait! Elle ne montrait pas la moindre envie de plaire, et jamais, après le salut de politesse, elle n'ouvrait les lèvres pour répondre à la présentation de son mari, ou pour dire quelques mots gracieux aux amis qu'il lui présentait. Comment Edith, qui la traitait avec tant de bonté, avec tant de tendresse, pouvait-elle se conduire de la sorte avec tout le monde? C'était pour Florence une énigme pénible. Elle se reprochait presque, comme une ingratitude, d'être témoin de cette disparate déplaisante. Qu'elle aurait été heureuse si elle avait osé seulement tenir compagnie à son père, ne fût-ce que par un regard. Mais elle était heureuse aussi de ne pas connaître la véritable cause du malaise de son père. Cependant, craignant de lui laisser voir qu'elle devinait combien sa position était fausse, de peur de lui déplaire, partagée entre son désir de lui être agréable et son affectueuse reconnaissance pour Edith, elle osait à peine lever les yeux vers l'un ou vers l'autre. Inquiète et malheureuse pour tous deux, elle se prenait à penser, au milieu de toute cette foule, qu'il aurait mieux valu pour eux que les invités n'eussent jamais mis le pied dans cette demeure, que la tristesse et l'abandon de cette vieille maison n'eussent jamais vu ces changements splendides, et que l'enfant négligé, au lieu de trouver une amie dans Edith, eût continué à vivre solitaire dans l'abandon et l'oubli. Madame Chick avait bien quelques pensées de ce genre, mais elle n'était pas aussi calme que Florence. Cette honnête dame s'était sentie humiliée tout d'abord de n'avoir pas reçu une invitation pour le dîner. Remise en partie de ce coup, elle avait fait d'immenses dépenses pour se présenter chez Madame Tombet dans une toilette capable de l'éblouir et de faire mourir de dépit Madame Stewton. « On ne prend pas plus garde à moi qu'à Florence, » dit Madame Chick à son mari. « Qui s'occupe de moi ? Personne. » « C'est vrai, personne, ma chère, » dit Monsieur Chick en faisant un signe d'assentiment. Il s'était assis à côté de Madame Chick, tout près du mur, où, sans souci de la compagnie, il se consolait comme d'habitude en sifflant tout bas. « On dirait vraiment que je n'avais que faire ici, » s'écria Madame Chick, les yeux pleins de colère. « C'est vrai, ma chère, on le dirait en effet, » répondit Monsieur Chick. « Il faut que Paul soit fou, » fit Madame Chick. Monsieur Chick siffla. « Ah, ça, monsieur, si vous n'êtes pas un monstre, comme je suis quelquefois tenté de le croire, » dit Madame Chick avec candeur, « je vous prie de ne pas siffler ainsi. Comment un homme peut-il voir de sang-froid la belle-mère de Paul, habillée comme elle l'est, se promener avec le major Backstock, encore une des jolies nouveautés dont nous sommes redevables à votre Lucrèce Tox ?»« Ma Lucrèce Tox, ma chère, » dit Monsieur Chick étonné. « Oui, » fit Madame Chick, avec gravité, « votre Lucrèce Tox. Je demande si l'on peut voir de sang-froid cette belle-mère de Paul, cette orgueilleuse épouse de Paul, toutes ces horreurs de vieilles femmes avec leur dos et leurs épaules indécentes, en un mot, tout ce qui se passe ici est un mystère pour moi. Dieu merci !» Et Madame Chick appuya sur cette réflexion avec une telle expression de mépris que Monsieur Chick en trembla. Il se tordit les lèvres pour se mettre dans l'impossibilité de fredonner ni de siffler un air, et tâcha de prendre un air contemplatif. « Mais c'est égal, je n'en sais pas moins ce qui m'est dû, » dit Madame Chick, toute gonflée d'indignation. « Permis à Paul de l'oublier. Mais je ne viendrai pas m'asseoir ici, moi, membre de la famille, pour qu'on ne fasse pas plus d'attention à moi. Ne semblerait-il pas que M. Dombey ne me regarde déjà pas plus que la boue de ses souliers ?» « Pas encore, Monsieur Dombey, pas encore !» répétait Madame Chick, comme si elle eût voulu dire que c'était bon pour demain ou après-demain, mais qu'il était trop tôt aujourd'hui. « Je préfère m'en aller. Je ne prétends pas dire, quoi que cet égard je puisse penser ce que je veux, je ne prétends pas dire qu'on a l'intention de m'humilier ou de m'insulter. Je m'en irai. Je suis sûr qu'on n'y fera seulement pas attention. » Madame Chick se leva fièrement et prit le bras de Monsieur Chick, qui l'escorta hors de la chambre, après y être resté environ une demi-heure à l'ombre. Pour rendre justice à sa pénétration, nous sommes obligés de dire qu'en effet, on ne fit pas la moindre attention à sa disparition. Mais elle n'était pas la seule des invitées qui fut mécontente. La liste de M. Dombey, toujours en délicatesse, était mécontente, d'un commun accord, de la liste de Mme Dombey, car les invités de celle-ci avaient toujours le lorgnon et demandaient assez haut pour qu'on pût les entendre de ce que c'était que ces gens-là. La liste de Madame Dombey se plaignait d'un ennui mortel, et la jeunesse aux épaules, privée des attentions de ce jeune et charmant cousin Phoenix, qui s'était retiré après le dîner, dit en confidence à 30 ou 40 amis qu'elle s'ennuyait à périr. Toutes les vieilles dames, avec leurs paquets de fleurs sur la tête, avaient à se plaindre plus ou moins de Madame Dombey. Les directeurs, les chefs des grandes compagnies, pensaient ensemble que si Dombey devait se marier, il aurait mieux valu pour lui qu'il eût épousé une personne d'un âge mieux assorti et un peu mieux dans ses affaires, dût-elle être moins jolie. L'opinion générale parmi les hommes de cette classe était que Dombey avait fait là une grande faute et qu'il ne tarderait pas à s'en mordre les doigts. Il n'y eut pour ainsi dire personne, sauf les messieurs timides, qui se retira sans avoir à se plaindre de l'accueil de M. Dombey et de Mme Dombey. Quant à la dame silencieuse, à la toque de velours noir, elle avait été frappée de mutisme, parce que la dame à la toque de velours cramoisi avait été conduite à table avant elle. La nature même des messieurs timides se gâta dans cette contagion, soit qu'ils eussent fait des excès de sirop de limonade qui leur avait tourné sur le cœur, soit qu'ils eussent gagné la maladie générale. Ils se permettaient des plaisanteries entre eux et se moquaient tout bas de la soirée sur les escaliers ou derrière les portes. Le mécontentement et l'ennui s'étaient répandus jusque dans la cuisine, où les laquais ne s'amusaient pas plus que les invités. les porte-flambeaux mêmes qui étaient à la porte étaient atteints du même mal et comparaient la réunion à un enterrement, si ce n'est qu'on n'y portait pas le deuil et que personne de la société n'avait de legs dans le testament. À la fin, les invités se retirèrent tous, les porte-flambeaux aussi. La rue, tout à l'heure encore encombrée de voitures, devint silencieuse, et l'on ne vit plus dans les salons, à la lueur mourante des flambeaux, que M. Dombey et M. Carker, qui causaient ensemble dans un coin, et Mme Dombey et sa mère dans l'autre. La première était assise sur une ottomane, la seconde était étendue, toujours comme Cléopâtre, attendant l'arrivée de sa femme de chambre. M. Dombey ayant fini de donner ses instructions à Carker, celui-ci s'avança d'un air humble pour prendre congé. « J'espère, dit-il, que les fatigues de cette délicieuse soirée ne compromettront pas la santé de Mme Dombey pour demain. »« Mme Dombey, dit M. Dombey en s'avançant, s'est épargné assez de fatigue pour que vous n'ayez aucune inquiétude à cet égard. »« Je regrette d'avoir à vous dire, Mme Dombey, que j'aurais désiré vous voir vous fatiguer un peu plus dans cette circonstance. » Elle lui lança un regard plein d'arrogance comme pour lui dire qu'il était inutile d'en ajouter davantage. Et elle détourna la tête sans répondre. « Je regrette, madame, dit M. Dombey, que vous n'ayez pas regardé comme de votre devoir. » Elle le regarda encore une fois. « Comme de votre devoir, madame, poursuivit M. Dombey, de recevoir mes amis avec un peu plus de déférence. Quelques-uns de ceux qu'il vous a plu de laisser de côté ce soir d'une manière assez claire, madame Dombey, vous font honneur, je puis vous le dire, en venant chez vous. « Savez-vous qu'il y a quelqu'un ici ? » répondit-elle en le regardant fixement. « Non, Carker, je vous prie de ne pas sortir. Je désire que vous ne sortiez pas !» s'écria M. Dombey en arrêtant le gérant qui se retirait sans bruit. « M. Carker, madame, comme vous le savez, a toute ma confiance. Il connaît comme moi-même le sujet dont je parle. J'ai l'honneur de vous prévenir, pour votre gouverne, madame Dombey, que la visite de ces personnes riches et haut placées m'honore moi-même. » Et M. Dombey se renversa sur son fauteuil, comme si ses paroles eussent donné à ses invités une importance sans pareille. « Je vous demande, répéta-t-elle, en arrêtant sur lui son regard plein de dédain et de fermeté, si vous ne savez pas qu'il y a quelqu'un ici, monsieur. » « Je vous prie, dit M. Carker, en faisant un pas vers la porte, je vous prie de me permettre de me retirer. Quelque légère, quelque insignifiante que soit cette petite discussion, Madame Scruton, qui n'avait cessé de regarder sa fille, coupa la parole à M. Carker. « Ma bien chère Edith, dit-elle, et vous, mon cher Dombey, notre excellent ami, M. Carker, car vraiment je crois pouvoir l'appeler ainsi, M. Carker s'inclina en disant « C'est trop d'honneur. » M. Carker a employé les mots que j'avais sur les lèvres. Depuis une éternité, je mourais d'envie de les dire, légère et insignifiante. Ma bien chère Edith et mon cher Dombey, « ne savons-nous pas qu'une petite discussion entre vous deux ?»« Non, Flowers, pas encore. » Flowers était la femme de chambre de Madame Scruton. En voyant les messieurs dans le salon, elle se retira précipitamment. « Ne savons-nous pas qu'une petite discussion entre vous deux ?» reprit Madame Scruton, « avec le cœur que vous avez tous les deux et la douce chaîne de sentiments qui vous unit, ne peut être jamais que tout à fait légère et insignifiante. Quel mot pourrait mieux définir le fait dont il s'agit ? Aucun. » Aussi, je suis heureuse de saisir cette petite occasion, une bagatelle en un mot, où se retrouvent encore la nature, le type primitif de vos caractères particuliers, tout ce qui est si propre à faire venir les larmes dans les yeux d'une mère. Je suis heureuse de dire que je n'attache aucune importance à tout ceci, qui n'est, selon moi, en définitive, que l'expansion la plus naturelle des mouvements de l'âme. J'ajoute que, différente en cela de la plupart des belles-mères, quel odieux nom, mon cher Dombey, de ces belles-mères, comme on me les a représentées dans ce monde si peu naturel, je ne m'interposerai jamais entre vous dans aucune circonstance, et que je ne puis pas voir avec regret jaillir entre vous deux quelques étincelles de la torche de... Comment l'appelez-vous donc ? Non pas Cupidon, mais cette autre délicieuse créature. » Il y avait dans le regard que la bonne mère lança à ses deux enfants en parlant une certaine malice qui semblait cacher une ferme résolution sous ses longues périphrases. C'était la résolution de se mettre à l'écart, dès le commencement, de toutes les brouilles qui pourraient survenir, de faire croire à sa foi sincère quand elle leur parlait de leur affection et de leur bonne intelligence. « J'ai indiqué à Madame Dombey, dit M. Dombey, de son ton le plus roide, ce qui m'a déplu dans sa conduite dès le commencement de notre mariage, et ce dont je désire la voir se corriger. Carker, et il lui fit de la tête un signe d'adieu, « Bonsoir ». Carker s'inclina devant l'impérieuse Édith, dont les yeux brillants s'étaient fixés sur son mari, et s'arrêtant devant la couche de Cléopâtre, il porta à ses lèvres d'un air humble et flatteur la main qu'elle lui tendait avec grâce. Si la belle Édith eût fait des reproches à son mari, si elle eût changé de contenance, ou qu'elle eût rompu le silence qu'elle avait gardé maintenant qu'ils étaient seuls, car Cléopâtre avait fui, M. Dombey aurait pu discuter avec elle sa conduite à son égard. Mais il n'avait aucune ressource contre le mépris profond, inouï, incroyable, avec lequel, après l'avoir regardé, elle baissa les yeux, comme s'il était inutile de continuer cette discussion. Il ne trouvait rien à répondre à ce dédain suprême, à cette arrogance qu'elle lui montra en s'asseyant en face de lui. Il ne pouvait rien devant cette résolution froide, inflexible, que trahissait chacun de ses traits. Il était atterré. Il la laissa donc occupée à concentrer son mépris sur lui du haut de son arrogante beauté. Fut-il assez lâche pour aller la guetter, une heure après, sur le vieil escalier, où il avait vu jadis Florence à la clarté de la lune, monter tout doucement avec le petit Paul? Ou bien se trouvait-il dans l'obscurité par un effet du hasard, quand, levant les yeux, il l'aperçut sortir, une lumière à la main, de la chambre où couchait Florence? Et quand il vit combien ce visage indomptable pour lui avait changé d'expression. Mais tout changé qu'il était, il était impossible qu'il le fût autant que le sien. Jamais dans son orgueil et dans sa passion, il ne sut quelle ombre épaisse était tombée sur sa figure le soir de son retour, tandis qu'il était assis dans un coin obscur du salon à les considérer toutes deux. Combien de fois elle s'assombrit depuis, et en ce moment surtout, qu'il regardait passer Édith. Chapitre 16. Plus d'un avertissement. Florence, Édith et Madame Skewton étaient ensemble le lendemain et la voiture attendait à la porte pour les emmener. Car Cléopâtre avait retrouvé sa galère et Withers, qu'on ne pouvait plus appeler le blême, depuis qu'il s'engraissait à la cuisine du patron, se tenait tout roide pendant le dîner derrière sa chaise non roulante qu'il n'avait plus à pousser à coups de tête comme un bélier. Il portait une belle veste gorge de pigeon et une culotte galonnée. Ses cheveux étaient luisants de pommade, à présent qu'il n'avait plus qu'à se peigner. Il portait des gants de chevreau et sentait l'eau de Cologne. On était dans la chambre de Cléopâtre. Le serpent du vieux Nil, soit dit sans l'offenser, était étendu sur son sofa, humant son chocolat du matin, à 3 heures de l'après-midi. Flowers, sa femme de chambre, était occupé à assujettir ses manchettes et sa collerette de jeune personne, à mettre enfin la dernière main à sa toilette, en lui plaçant sur la tête un chapeau de velours couleur fleur de pêcher. Les roses artificielles tremblaient comme agitées par une douce brise, mais c'était la paralysie qui se jouait au milieu d'elles. « Il me semble que je suis un peu nerveuse ce matin, Flowers, » dit Madame Skewton. « Ma main tremble. » « Vous avez été l'âme de la réunion d'hier soir, madame, » répondit Flowers. « Il n'est pas étonnant que vous en ressentiez aujourd'hui quelque fatigue. » Édith, qui avait emmené Florence à la croisée, regardait dans la rue et tournait le dos à la toilette de son estimable mère. Tout à coup, elle se retourna brusquement, comme si un éclair lui eût frappé la vue. « Ma chère fille, » s'écria Cléopâtre d'un ton languissant, « est-ce que vous aussi vous deviendriez nerveuse ?»« Oh non, non, ma chère Édith. » « Vous qui savez vous vaincre à faire envie à tout le monde, j'espère que vous n'allez pas commencer à devenir une vraie martyre des nerfs comme votre malheureuse mère. Withers, il y a quelqu'un à la porte. »« Voici une carte, madame, » dit Withers en la présentant à madame Dombey. « Je sors, » dit-elle sans la regarder. « Mon amour, » dit madame Skewton d'une voix traînante, « quelle bizarrerie de faire cette réponse sans avoir seulement regardé le nom. Apportez-moi la carte, Withers. » « Oh, mon amour, c'est M. Carker, cet homme si exquis. »« Je sors, » répéta Édith, et cette fois elle parla d'un ton si impérieux que Withers, s'élançant vers la porte, dit aussi du ton le plus impérieux au domestique qui attendait, « Madame Dombey sort, décampée !» Sur quoi il lui ferma la porte au nez. Mais le domestique revint un instant après, parla encore tout bas à Withers, qui se présenta de nouveau, mais d'assez mauvaise grâce devant Madame Dombey. « Pardon, madame, mais M. Carker vous présente ses très humbles compliments et demande la faveur de quelques minutes d'entretien si vous le pouvez. C'est pour affaire, madame, je vous demande bien pardon. » En vérité, mon amour, dit Mme Skewton de son ton le plus doux, car le visage de sa fille était menaçant, si vous vouliez me permettre de dire un mot, je vous engagerai. Faites-le entrer, dit Edith. Et pendant que Withers disparaissait pour remplir cette commission, elle ajouta, regardant sa mère en fronçant le sourcil, puisqu'il vient d'après vos désirs, il sera reçu dans votre chambre. Puis-je, dois-je me retirer? S'écria vivement Florence. Edith lui fit de la tête un signe affirmatif, mais au moment où Florence sortait, elle rencontra le visiteur qui entrait. Il lui adressa quelques paroles de ce même ton désagréable, mi-familier, mi-protecteur, qu'il avait déjà pris une fois avec elle. Mais il y avait quelque chose de plus doucereux dans sa voix. « J'espère, lui dit-il, que Mademoiselle Florence se porte tout à fait bien. Il est presque inutile de le demander, car ce visage répond d'avance. » « C'est à peine si j'ai pu vous reconnaître hier soir, mademoiselle, tant vous êtes changée. » Et il tenait la porte ouverte pour qu'elle pût sortir. Mais ses manières pleines de déférence et de politesse cachaient mal un secret sentiment de la puissance qu'il avait sur la jeune fille qui fuyait son approche. Puis il se baissa un moment sur la main que lui tendait Mme Skewton avec condescendance, et enfin il salua Edith. Elle répondit froidement à son salut, ne tourna pas la tête de son côté, et attendit, debout et sans le faire asseoir, qu'il voulût bien s'expliquer. Quoiqu'elle se retranchât derrière son orgueil et la puissance de ses charmes, et qu'elle appelât à elle toute la fermeté de son âme, car depuis longtemps elle s'était dit que sa mère et elle étaient connues de cet homme sous le jour le plus défavorable, du moment même où elles avaient fait sa connaissance, elle sentait que son ignominie n'était pas plus un mystère pour lui que pour elle-même, qu'il lisait dans sa vie comme dans un mauvais livre, que son regard, l'inflexion de sa voix, des signes qu'elle seule pouvait remarquer, tout cela c'était comme les feuillets de ce livre qu'il faisait passer sous ses yeux. Elle se sentait faible et vaincue d'avance. Aussi, quoiqu'elle fût là, devant lui, fière, impérieuse, le forçant à s'humilier, quoique ses lèvres dédaigneuses semblassent lui intimer l'ordre de sortir, quoique son sein se soulevât irrité de sa présence, que ses longs cils voilassent l'éclat de ses yeux noirs, pour empêcher qu'un rayon n'allât tomber sur lui, tandis que lui, Carker, penchait la tête d'un air humble, réclamant contre un arrêt qu'il ne méritait pas, et se montrant l'esclave de ses volontés, elle savait au fond de son cœur que les rôles étaient changés, que c'était lui le vainqueur, le triomphateur, et qu'il avait la conscience de sa victoire. « J'ai pris la liberté, dit M. Carker, de solliciter de vous un moment d'entretien, et si je me suis permis de dire qu'il s'agissait d'affaires, c'est que... Peut-être M. Dombey vous a-t-il chargé de quelques messages de reproche, dit Edith. Vous avez tellement sa confiance, monsieur, que je ne serais pas surprise que ce fût là l'affaire en question. Je n'ai aucun message pour la dame qui jette un si grand lustre sur son nom, dit M. Carker. Mais je supplie cette dame, dans mon propre intérêt, d'être juste pour un humble serviteur qui ne fait que lui demander justice. Je ne suis qu'un humble serviteur de M. Dombey, et je la prie de vouloir bien songer qu'il m'a été absolument impossible hier d'éviter la part qu'on m'a forcé de prendre dans une circonstance si pénible. « Ma bien chère Edith, dit Cléopâtre à voix basse, en laissant retomber son lorgnon, c'est vraiment charmant de la part de... Comment l'appelez-vous? C'est plein de cœur. Car si j'ose, dit M. Carker, en se tournant vers Mme Skewton et la remerciant du regard, si j'ose appeler cette circonstance pénible, ce n'est pas qu'elle le fût pour d'autres que pour moi, qui ai eu le malheur d'en être témoin. Une discussion si légère n'est vraiment rien entre les deux parties intéressées, entre les personnes qui s'aiment avec un dévouement sans bornes et qui se sacrifieraient l'une pour l'autre dans tous les cas. Certainement ce n'est rien, comme Mme Skewton l'a dit elle-même avec tant de vérité et de sentiment hier soir, ce n'est absolument rien. Edith ne pouvait se décider à le regarder. Elle lui dit cependant, après quelques instants, « Et votre affaire, monsieur ?»« Edith, mon cœur, dit Mme Skewton, monsieur Carker est debout. Mon cher monsieur Carker, asseyez-vous, je vous prie. » Il ne répondit pas à la mère, mais fixa ses yeux sur la fière Edith. On eût dit qu'il ne voulait obéir qu'à elle, et qu'il était résolu à attendre ses ordres. Edith, en dépit d'elle-même, s'assit et lui indiqua faiblement de la main un siège. Rien de plus froid, de plus altier, de plus insolent que ce geste impérieux et humiliant, mais elle avait lutté sans résultat contre cette concession qui, en définitive, lui était arrachée. M. Carker n'en demandait pas davantage, il s'assit. « Madame me permettra, » dit M. Carker, en tournant vers Mme Stoughton ses dents d'une blancheur éblouissante, « une dame d'un tact aussi exquis que le vôtre, d'un goût aussi parfait, me permettra, j'en suis sûr, de confier à Mme Dombey ce que j'ai à lui dire. » En la laissant libre, toutefois, de faire part de cette communication à vous, madame, qui êtes sa meilleure et sa plus sincère amie, après M. Dombey. Mme Stoughton allait se retirer, Edith l'arrêta. Elle allait aussi l'arrêter, lui, et le forcer avec colère à s'expliquer ouvertement ou à se taire. Mais il lui dit à voix basse, « Mademoiselle Florence, la jeune fille, qui vient de quitter tout à l'heure cette chambre. » Edith le laissa parler. Elle le regardait fixement maintenant, et en le voyant se pencher pour se rapprocher d'elle, toujours avec les plus grandes marques de respect et de soumission, en le voyant, avec son sourire insinuant, découvrir ses deux rangées de dents, il lui sembla qu'elle aurait eu plaisir à le tuer. « La position de Mademoiselle Florence, dit-il, a été malheureuse. Il m'est difficile d'aborder ce sujet avec vous, qui avez pour son père un attachement tel que votre affection souffrirait, je n'en doute pas, du moindre mot qui pourrait porter atteinte à son caractère. Quoique sa manière de parler fût en tout temps précise et doucereuse, rien ne peut donner une idée de la précision et de la douceur avec laquelle il prononça ces mots et quelques autres du même genre. Mais en ma qualité d'homme dévoué à M. Dombey, par position et toujours plein d'admiration pour son caractère, m'est-il permis de dire, sans offenser votre tendresse d'épouse, que Mademoiselle Florence a été malheureusement négligée par son père ? Oui, qu'il me soit permis de le dire, par son père. Je le sais, répondit Edith. Vous le savez, dit M. Carker, comme soulagé d'un grand poids. C'est une montagne de moins sur mon cœur. Puis-je espérer que vous savez comment cet abandon a commencé ? À quelle charmante époque de l'orgueil de M. Dombey, de son caractère, veux-je dire ? Vous pouvez passer tout cela sous silence, monsieur, répondit-elle, et en venir au but de votre visite. En vérité, je vois, madame, répliqua M. Carker, je vois fort bien que M. Dombey n'a besoin d'être justifié en rien devant vous. Jugez donc avec bonté de mes sentiments par les vôtres, et vous me pardonnerez mon intérêt pour lui si cet intérêt excessif sort quelquefois des bornes. Quel coup pour un cœur si fier d'être là, assise face à face avec lui, et de lui entendre prendre sans cesse à témoin le faux serment qu'elle avait prêté devant l'autel, le lui jeter au visage comme les dernières gouttes d'une coupe amère qu'il fallait boire jusqu'à la lie sans détourner la tête. Quelle honte, quel remords, quelle fureur se disputait son cœur lorsque, droite et majestueuse, elle se tenait devant lui, drapée dans sa fière beauté, sachant au fond de son âme qu'il la tenait sous ses pieds. « Mademoiselle Florence, dit M. Carker, laissez aux soins, si l'on peut appeler cela des soins, de domestiques et de mercenaires, de toute façon, ses inférieurs, avait nécessairement besoin de conseils et de directions dans son enfance. Et comme ces conseils et directions lui ont manqué, elle a commis quelques légèretés, et jusqu'à un certain point, oublié son rang. Elle a eu une petite amourette avec un certain Walter, un jeune homme du peuple qui, fort heureusement, est mort maintenant. Elle a eu aussi des rapports fort regrettables, je suis désolé de le dire, avec un certain marin de cabotage, dont la réputation n'est rien moins que bonne, et avec un vieux banqueroutier qui a disparu. « Je sais tous ces détails, monsieur, » dit Edith, en abaissant sur lui son regard dédaigneux, « et je sais que vous les altérez, à votre insu peut-être. Au moins, je l'espère. »« Je vous demande pardon, » dit M. Carker, « je crois que personne ne les connaît aussi bien que moi. Votre nature ardente et généreuse, madame, cette nature qui venge si noblement un mari aimé et honoré, et qui lui reconnaît toutes les qualités qu'il possède, cette nature, je la respecte, je la vénère et je m'incline devant elle. Mais quant aux circonstances pour lesquelles j'ai osé réclamer votre attention, je ne puis avoir le moindre doute à ce sujet, car en ma qualité de confident de M. Dombey, j'ose dire d'ami de M. Dombey, je m'en suis assuré moi-même. Pour me rendre digne de cette confiance, pour obéir au profond intérêt que je lui porte, intérêt que vous devez si bien comprendre et qui s'étend à tout ce qu'il touche, ou bien, si vous voulez, car vraiment je crains d'encourir votre disgrâce, poussé par le motif le plus humble de lui prouver mon activité et de me faire mieux agréer, c'est moi qui me suis mis à la recherche de tous ces renseignements. Et pour parvenir à mon but, j'ai employé des gens sûrs. Aussi ai-je entre les mains une foule de preuves irrécusables. » Elle leva les yeux seulement jusqu'à la hauteur de la bouche qui venait de parler, et elle put y voir dans chaque dent percer toute sa méchanceté. « Veuillez me pardonner, madame, continua-t-il, si dans l'embarras où je suis, je viens prendre conseil de vous et vous demander votre avis. Je crois avoir remarqué que vous vous intéressez beaucoup à mademoiselle Florence. » Cet homme lisait donc dans le fond de son cœur. Il connaissait donc ses sentiments les plus secrets. Humiliée et hors d'elle-même à cette pensée, elle mordit ses lèvres tremblantes pour cacher son trouble et lui fit un léger signe de tête pour toute réponse. « Cet intérêt, madame, qui est une nouvelle preuve de l'attachement que vous avez pour tout ce qui touche à M. Dombey, m'invite à tarder encore avant de lui raconter tous ces détails qu'il ignore. À vous dire vrai, je sens, à cet égard, ma fidélité pour M. Dombey si ébranlée que sur un mot de vous, je garderai le silence. » Edith releva vivement la tête, recula d'un pas et abaissa vers lui un sombre regard. Il le reçut en souriant de l'air le plus doux et le plus respectueux, et il ajouta « Vous disiez, madame, que j'altérais les détails que je vous ai donnés. Je crains bien de n'avoir raconté que la vérité, la pure vérité. Supposons pourtant que tout cela soit faux. L'inquiétude que je ressens depuis quelque temps à ce sujet provient de ceci. Mademoiselle Florence, dans sa candeur et son innocence, pourrait continuer ses rapports avec de tels gens, et tout insignifiants qu'ils peuvent être, M. Dombey les considérerait comme une chose sérieuse. Déjà mal disposé à son égard, la conduite de mademoiselle Florence le conduirait à prendre un parti auquel je sais qu'il a déjà songé quelquefois. Il se séparerait de sa fille et la renverrait de chez lui. Pardonnez-moi, madame, et souvenez-vous des rapports que j'ai avec M. Dombey, de la connaissance que j'ai de son caractère, presque depuis mon enfance, quand je dis que s'il a un défaut, c'est une volonté inflexible qui lui vient de ce noble orgueil, de ce sentiment élevé qu'il a conçu de sa puissance et devant laquelle nous devons tous courber la tête. Cette volonté ne ressemble en rien à l'entêtement de bien d'autres, elle est inébranlable, et de jour en jour, d'année en année, elle devient de plus en plus invincible. » Elle abaissa encore son regard sur lui, mais pendant qu'il lui dépeignait ce qui devait lui faire courber la tête devant M. Dombey, ses narines dilatées, sa respiration oppressée et sa lèvre légèrement retroussée ne lui échappèrent pas. Quoique l'expression de son visage n'eût pas changé, elle vit bien qu'il l'avait devinée. « La discussion d'hier soir, dit-il, s'il m'est permis d'y faire allusion, quelque légère qu'elle soit, prouve la vérité de ce que j'avance bien plus qu'une discussion plus sérieuse. Dombey et fils ne connaissent ni temps, ni lieu, ni saison. Ils triomphent de tout. Mais je me réjouis de la circonstance qui m'a permis d'aborder ce sujet aujourd'hui avec Madame Dombey, quand bien même j'aurais pu encourir un temps sans déplaisir. Madame, au milieu du trouble et de l'inquiétude où m'avait jeté ce sujet, j'ai été appelé par M. Dombey à Leamington. C'est là que je vous vis pour la première fois. Il me fut impossible de ne pas deviner la place que vous auriez bientôt dans son cœur, pour son bonheur et pour le vôtre. Je résolus alors d'attendre le moment de votre installation ici pour faire la démarche que je viens de faire. Je ne crains pas d'avoir manqué à mes devoirs envers M. Dombey en ensevelissant dans votre cœur la confidence que je vous fais. Car lorsque deux personnes ne font qu'un cœur et qu'une âme, comme dans une telle union, l'un peut représenter l'autre. Je puis donc soulager ma conscience en me confiant à vous aussi bien qu'à lui. Pour les raisons que je vous ai dites, je préfère me confier à vous. Puis-je espérer que vous agréez ma confiance et que je puis me croire déchargé maintenant de toute responsabilité ?» Il se rappela longtemps le regard qu'elle lui lança. Qui aurait pu l'oublier ? Il se rappela longtemps aussi le combat intérieur qu'elle parut se livrer à elle-même. Enfin, elle dit « J'accepte, monsieur. Vous voudrez bien ne plus revenir sur ce sujet et n'en parler à personne d'autre. » Il fit un humble salut et se leva. Elle se leva aussi, et il prit congé d'elle avec toutes les marques du plus profond respect. Mais Withers, qui le rencontra dans l'escalier, fut saisi de la blancheur de ses dents et de l'éclat de son sourire. Et pendant qu'il s'éloignait au trot sur son cheval blanc, les passants le prirent pour un dentiste, tant ses deux rangées de dents étaient éblouissantes. Quant à Edith, lorsqu'elle sortit de sa voiture, les passants la prirent pour une grande dame aussi heureuse qu'elle était riche et belle. Mais c'est qu'ils ne l'avaient pas vue un moment auparavant, toute seule dans sa chambre. Il ne l'avait pas entendu s'écrier « Oh, Florence, Florence !» Madame Stewton, assise sur son sofa et humant son chocolat, n'avait saisi dans la conversation que le vulgaire mot « d'affaires », pour lequel elle se sentait une si mortelle aversion qu'elle l'avait banni de son vocabulaire et que, par suite, elle avait failli ruiner plusieurs modistes et d'autres fournisseurs qui avaient affaire à elle. Mais cela toujours de la manière la plus charmante, toujours pour se donner tout entière aux choses du cœur, aux douces jouissances de l'âme. Madame Stewton donc ne fit aucune question et ne témoigna pas la moindre curiosité. Du reste, son chapeau de velours, fleur de péché, l'occupa suffisamment quand elle fut sortie. Car, perché sur le sommet de sa tête, agité par le vent qui était assez violent, il se démenait comme un forcené pour se séparer de Madame Stewton sans vouloir entendre raison. Quand la voiture fut fermée et que le chapeau fut à l'abri du vent, la paralysie se joua de nouveau au milieu des roses artificielles. On eut pris la voiture pour un hôpital de retraite à l'usage des zéphyrs octogénaires. Madame Stewton avait donc assez à penser sans se préoccuper d'autre chose. Elle n'alla pas mieux vers le soir. Quand Madame Dombey se fut habillée dans sa chambre, elle eut attendu pendant une demi-heure que M. Dombey, dans le salon, se fût promené avec une impatience solennelle, car tous trois devaient aller dîner en ville, Flowers, la femme de chambre, apparut toute pâle devant Madame Dombey en disant « Je vous demande bien pardon, madame, mais je ne puis rien faire de ma maîtresse. »« Que voulez-vous dire ?» demanda Edith. « Ah, madame, répliqua la femme de chambre épouvantée, je ne sais pas moi-même ce que cela veut dire. Elle fait des grimaces. » Edith se précipita avec elle vers la chambre de sa mère. Cléopâtre était en grande toilette avec ses diamants, ses manches courtes, son rouge, ses papillotes, ses fausses dents et toute sa mise de jeune personne au grand complet. Mais elle n'avait pu, avec tout cela, donner le change à la paralysie qui était venue la réclamer comme sa proie et la frapper juste devant son miroir, où elle était encore comme une affreuse poupée qui vient de se casser en tombant. On la démonta pièce par pièce, sans vergogne, et on plaça sur le lit le peu de réel qui restait encore d'elle. On envoya chercher les médecins qui arrivèrent bientôt. On eut recours à des remèdes énergiques. Le résultat de la consultation fut qu'elle se relèverait de cette attaque, mais que si elle en avait une autre, elle n'y survivrait pas. Elle resta là bien des jours, sans recouvrer la parole, les yeux fixés au plafond. Quelquefois elle faisait entendre des sons inarticulés quand on lui demandait si elle reconnaissait les personnes qui étaient auprès d'elle. D'autres fois, on n'obtenait d'elle ni le moindre signe, ni le moindre geste, pas même un mouvement de sa prunelle. À la fin, elle commença à recouvrer le sentiment, et même un peu le mouvement, mais la parole ne lui était pas encore revenue. Un jour, elle retrouva l'usage de sa main droite, et la montrant à sa femme de chambre, qui ne la quittait pas d'une minute, elle parut intérieurement agitée et parvint à faire comprendre par ses gestes qu'elle voulait un crayon et du papier. La femme de chambre lui donna aussitôt ce qu'elle demandait, pensant qu'elle allait faire son testament pour mettre par écrit ses volontés dernières. Madame Dombey n'étant pas à la maison, la femme de chambre attendit le résultat avec une émotion profonde. Après un griffonnage pénible et rempli de ratures, la vieille femme parvint à tracer quelques lettres tout de travers, qui semblaient tomber au hasard du bout de son crayon, et elle lui tendit le document suivant. « Des rideaux roses ». Voyant la femme de chambre saisie d'étonnement, et ce n'était pas sans raison, Cléopâtre rectifia le manuscrit en y ajoutant trois mots « Des rideaux roses pour les médecins ». La femme de chambre découvrit alors qu'elle désirait ces rideaux pour présenter à la faculté une mine plus fleurie. Comme les gens de la maison qui la connaissaient le mieux n'avaient aucun doute sur cette interprétation, que Madame Stewton, du reste, confirma elle-même, on plaça à son lit des rideaux roses, et à partir de ce moment, elle se remit avec une incroyable rapidité. Bientôt, elle put se lever en papillote, bonnet monté et en robe de chambre. Elle n'oublia pas de remplir de rouge les profondes cavernes de ses joues. C'était quelque chose d'affreux que de voir cette femme dans ses atours, jouant de la prunelle, minaudant avec la mort, et lui faisant des agaceries comme si elle avait affaire au major. Mais l'affaiblissement de ses facultés intellectuelles qui suivit cette attaque donnait autant à penser et n'était pas moins effrayant. Cette attaque eut-elle pour effet de la rendre plus rusée et plus fausse qu'auparavant? Madame Stewton a daté de ce moment, mêla-t-elle dans son cerveau ce qu'elle avait fait semblant d'être et ce qu'elle avait été réellement? eut-elle comme un remords de sa conduite passée, remords qui ne pouvait se produire au grand jour, ni rester complètement dans l'obscurité, ou bien la maladie qui troubla ses facultés produisit-elle tous ces résultats à la fois, ce qui est très probable. Voici du moins ce qu'on remarqua dans sa conduite. Elle devint excessivement exigeante sous le rapport de l'affection, de la reconnaissance et des égards qu'elle réclama d'Édith. Elle faisait elle-même son propre éloge. Se proclamant la plus estimable des mères, elle se montrait jalouse de la tendresse d'Édith. Elle allait même très loin. Ainsi, laissant de côté le pacte conclu entre elle et sa fille, elle faisait constamment allusion au mariage d'Édith, qui était à ses yeux une preuve de plus de son amour de mère incomparable. Tout cela, joint à la faiblesse et à l'humeur acariâtre résultant de son état, lui servait d'occasion pour revenir avec des regrets plus amers sur la légèreté et la jeunesse de ses sentiments dont elle ne pouvait se défaire. « Où est Madame Dombey ? » dit-elle à sa femme de chambre. « Elle est sortie, madame. »« Sortie ? Elle sort donc toujours pour éviter sa mère, Flowers. »« Oh Dieu non, madame ! Madame Dombey est sortie pour faire une promenade en voiture avec Mademoiselle Florence. » Mademoiselle Florence. Qu'est-ce que Mademoiselle Florence? Ne me parlez pas de Mademoiselle Florence. Qu'est-ce que Mademoiselle Florence auprès de moi? Assez ordinairement, on arrêtait les larmes qui commençaient alors à s'échapper de ses yeux, en lui mettant sa parure de diamant, ou bien son chapeau fleur de pêcher, car longtemps avant de sortir, elle mettait son chapeau pour recevoir ses visites, ou bien encore en l'affublant de 1000 colifichets. Elle attendait alors assez tranquillement qu'Édith vînt la voir. Mais, en apercevant ce visage orgueilleux, elle retombait de nouveau dans le désespoir. « Ah, vraiment, vous voilà, Édith » cria-t-elle en secouant la tête. « Qu'y a-t-il, ma mère ?»« Ce qu'il y a, je ne sais réellement pas ce qu'il y a. Le monde devient si artificiel, si ingrat, que je commence à croire qu'il n'y a plus de cœur ici-bas, ni rien qui y ressemble. »« Non, vraiment, Withers est plus mon enfant que vous ne l'êtes. » Il s'occupe de moi beaucoup plus que ma propre fille. Vraiment, j'en viens encore à regretter de paraître encore aussi jeune et tout ce qui s'ensuit, car alors peut-être penserait-on davantage à moi. Que désirez-vous, ma mère? Oh, bien des choses, Édith, dit-elle avec impatience. Y a-t-il quelque chose qui vous manque? En ce cas, ce serait bien votre faute. Ma faute? Et elle ajouta plus bas, quand je songe à la tendresse que j'ai eue pour vous, Édith. « J'ai fait de vous ma compagne depuis le berceau, et quand vous me négligez, que vous n'avez pour moi plus d'affection que pour une étrangère, pas la 20e partie de la tendresse que vous avez pour Florence, il est vrai que je ne suis que votre mère, et je pourrais la corrompre d'un jour à l'autre. Vous venez me dire que c'est ma faute. Ma mère, je ne vous reproche rien. Reviendrez-vous toujours sur ce sujet ? N'est-il pas naturel que j'y revienne, moi qui suis toute tendresse, tout sentiment ? N'est-il pas naturel que chacun de vos regards me fasse la plus cruelle blessure ? Je n'ai point l'intention de vous blesser, ma mère. Ne vous souvient-il pas de ce qui a été convenu entre nous ? Oublions le passé. Oui, oublions. Oublions la reconnaissance que l'on me doit, l'affection que l'on me doit. Laissez-moi seul dans ma chambre, retirée, abandonnée de tous, sans société, sans soins, lorsque vous, vous faites de nouvelles connaissances qui prennent tout votre amour, quoiqu'elle ne vous soit rien. Bonté du ciel, Édith, vous ne songez donc pas au brillant établissement qui a fait de vous comme une reine ? Si, mais silence. Et à cet excellent gentleman, M. Dombey, savez-vous que vous êtes sa femme, Édith, que vous avez un sort assuré, une position magnifique, une fortune superbe, une voiture, et que sais-je ? Oui, ma mère, je le sais, c'est bon. Tout ce que vous auriez eu, enfin, avec ce charmant garçon, comment l'appelait-on ? Granger ? Oui, s'il n'était pas mort. Et qui devez-vous remercier de tout cela, Édith ? Vous, ma mère, vous. Alors, passez-moi votre bras autour du cou et embrassez-moi. Enfin, prouvez-moi, Édith, que vous savez bien qu'il n'y eut jamais de meilleure mère que je ne l'ai été pour vous. Tâchez que je ne devienne pas horrible à faire peur, à force de gémir sur votre ingratitude, ou sans cela, quand je reparaîtrai dans le monde, personne ne me reconnaîtra. Pas même cet odieux animal de majeur. Mais parfois, quand Édith s'approchait d'elle, et baissant sa tête superbe, déposait sur sa joue un froid baiser, la mère reculait comme effrayée. Il lui prenait une crise nerveuse, et elle s'écriait qu'elle sentait sa tête s'en aller. Quelquefois, elle la priait humblement de s'asseoir sur une chaise, à côté de son lit, et elle la regardait d'un air rêveur, avec un visage dont les traits, malgré le reflet des rideaux roses, n'en étaient pas moins toujours un épouvantail de laideur. Les rideaux roses avaient bien pu, avec le temps, aider à la convalescence de Cléopâtre. Ils avaient bien pu déteindre sur ses vêtements, qu'elle portait plus jeune que jamais, pour réparer les ravages de la maladie, sur son rouge, sur ses dents, sur ses papillotes, sur ses diamants, sur ses manches courtes, enfin sur toute la layette de la poupée qui s'était cassée un jour devant la glace. De temps en temps, ils avaient bien pu déteindre sur ses paroles mal articulées, qu'elle dissimulait sous un sourire enfantin, et aussi sur sa mémoire, qui la trahissait d'une façon très irrégulière, allant, venant, au gré de ses caprices, comme pour narguer sa capricieuse maîtresse. Mais les rideaux roses ne purent changer la teinte de ses pensées ni de ses discours à l'égard de sa fille. Et bien qu'Édith eût souvent l'occasion d'éprouver leur influence, les rideaux roses ne purent se refléter sur son froid visage, ni l'animer d'une teinte gracieuse, ni illuminer d'un rayon d'amour filial l'expression sévère de sa triste beauté.